La première,
20h-21h le week-end,
en quête de sens.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Jacques Nizin à la technique, Vinciane Colson au micro. Dans un mois, jour pour jour, les Américains se rendront aux urnes pour élire leur 45e président. Hillary Clinton ou Donald Trump, les sondages sont serrés et comme à chaque élection présidentielle aux États-Unis, les religions pèsent de tout leur poids dans la balance. Hillary Clinton et Donald Trump continuent d'ailleurs d'écumer les églises pour rallier des électeurs. Certains observateurs estiment pourtant que, contrairement aux campagnes précédentes, la religion est passée au second plan dans les débats. Quel rôle joue la religion dans le choix des électeurs américains? Les questions religieuses sont-elles vraiment passées au second plan dans cette campagne? Et le concept de laïcité a-t-il vraiment sens aux États-Unis? Nous allons en discuter durant les 30 prochaines minutes avec Charles Voisin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chroniqueur spécialisé dans la politique américaine, conférencier à l'ULG notamment, et auteur d'un blog politicus.info où vous passez les politiques, la politique américaine à la loupe. Alors nous aurons aussi par téléphone dans l'émission Marie Gate, maître de conférence à l'université de Toulon, au laboratoire Babel. Ses recherches portent sur la place de la religion dans la politique américaine et elle a organisé un colloque intitulé « Religion et élections présidentielles aux États-Unis » les 22 et 23 septembre dernier à Aix-en-Provence. Elle nous en parlera dans un instant. Mais avant ça, Charles Voisin, avant de vraiment se cibler sur les questions liées à la place de la religion dans la campagne, je vous propose de faire un petit point sur la campagne et sur la situation actuelle. Donc un mois avant le scrutin, où en sont vraiment les débats?
Oui, donc au mois d'août, après la convention démocrate, Hillary a bénéficié de sondages assez favorables. Ensuite, Trump s'est pris les pieds dans le tapis en accusant une femme musulmane il s'est disputé avec eux. Hein, il n'a pas vraiment respecté cette famille qui a pourtant perdu un fils au combat. Donc, il a perdu quelques points. Et puis en septembre, ça a été au tour d'Hillary de perdre quelques points dans le sondage quand elle a eu une pneumonie et puis le scandale autour de ses emails est revenu un peu à la une. Et puis finalement, eh bien récemment, après le premier débat, on peut dire que Hillary a repris un peu, puisque elle a fait une très belle performance. Elle est arrivée à faire parler Donald Trump de lui, et il a mordu à l'hameçon finalement, et il a au lieu de finalement parler des sujets politiques importants, il s'est défendu sur tous les scandales qui l'entourent lui, et il y en a beaucoup plus que des scandales autour des emails d'Hillary Clinton d'ailleurs, puisque c'est plutôt une faute professionnelle qu'un scandale.
D'accord, donc on voit que même si Hillary Clinton effectivement a pris un peu les devants ces dernières semaines, on voit que c'est quand même encore très serré entre les deux. Alors je le disais en introduction, la religion elle a toujours pesé sur les débats, et ce n'est pas nouveau vraiment dans les campagnes présidentielles américaines, et d'ailleurs selon Marie Gade, donc maître de conférence à l'université de Toulon, cela fait plus ou moins 40 ans que les questions religieuses ont pris une place centrale dans les débats. On va écouter son explication et vous réagirez juste après, Charles Voisin.
C'est relativement récent à l'aune de l'histoire américaine. Je dirais que c'est vraiment depuis les élections de 1976, hein, c'est-à-dire la première élection post-légalisation de l'avortement, puisque l'avortement a été légalisé aux États-Unis en 1973 par un arrêt de la Cour suprême. Avant, il y a eu relativement peu d'intervention du religieux dans la vie politique. Si on laisse de côté le fait que Kennedy ait dû se défendre, au contraire, que la religion joue un quelconque rôle dans ses choix. Il a dû, au contraire, en 1960, comme il était le premier candidat catholique, dire « mon appartenance à la religion catholique n'influera en rien sur mes décisions ». Donc voilà, ça date d'il y a 40 ans, on va dire, hein, le poids du religieux dans les élections. Ça date d'il y a 40 ans parce que le Parti républicain a su vraiment, en quelque sorte, coopter les questions religieuses et les questions morales pour essayer de rallier à lui les électeurs pour lesquels ces questions sont importantes. Et en l'occurrence, les catholiques et les évangéliques protestants. Hein, donc c'est relativement récent, en fait. Et puis, un autre facteur que j'aimerais souligner, c'est qu'aux États-Unis, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, il n'y a pas de moralité sans religiosité. Il y a vraiment l'idée que pour être quelqu'un de moral, il faut avoir une croyance, il faut avoir religieuse, en tout cas, il faut avoir une appartenance religieuse. Donc voilà, ça c'est un autre facteur, me semble-t-il.
Alors, est-ce que aux États-Unis, effectivement, il n'y a pas de valeur morale, si on n'a pas de valeur religieuse, vous avez l'impression que ça correspond à la réalité ?
Alors, je peux vous citer un exemple assez personnel. Je sais bien que aux États-Unis, c'est difficile de se dire athée. Au fond, les gens vous regardent un peu comme si vous êtes comme si vous étiez un extraterrestre. Et je parle encore pour la région de la Nouvelle-Angleterre, le Nord-Est. Je pense que dans le Sud, c'est encore pire. Il y a une pression sociale, on peut le dire, hein, par rapport au fait d'être croyant ou pas. Et puis, c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a toujours cette notion de religion civile. Ça rassemble les gens et la séparation Église-État n'est pas complète puisque le président, ici le prochain président par exemple qui va prêter serment le 20 janvier à midi, c'est très précis, le fera sur une Bible et terminera certainement par que Dieu me bénisse ou la formule d'usage. Et on sait bien que par exemple sur les billets de banque il y a le fameux In God We Trust qui a été mis dans les années 50 en pleine guerre froide pour affirmer aussi le caractère chrétien de la nation américaine.
Oui, donc on est clairement dans une laïcité vraiment toute relative aux États-Unis. On va d'ailleurs écouter Marie Guette une nouvelle fois. Elle va nous donner son point de vue sur la laïcité américaine. On l'écoute.
Alors, le concept de laïcité, il est inscrit dans la Constitution, par le premier amendement, hein, qui garantit, alors, c'est pas la laïcité forcément comme on l'entend en France, il s'agit donc de séparation des églises et de l'État, dans le sens où l'État ne doit pas favoriser une religion au détriment d'une autre religion, ou de zéro religion, d'une part, et d'autre part qu'il y a un libre exercice de la religion aux États-Unis. Aux États-Unis, il me semble que si on devait distinguer la laïcité américaine de celle à la française, puisque c'est celle que je connais aussi, ça serait peut-être une laïcité plus bienveillante envers les religions aux États-Unis, vis-à-vis d'une laïcité peut-être un peu plus méfiante en France, vis-à-vis des religions. Je ne sais pas si d'autres personnes seraient d'accord avec cette impression, mais c'est cette idée qui en ressort. Alors, ce qui est intéressant aussi de souligner aux États-Unis, c'est qu'il y a un certain ras-le-bol qui est en train d'émerger quant à l'implication des églises, des organisations religieuses dans la vie politique. On voit au fil des sondages, des enquêtes sérieuses, une espèce de lassitude des électeurs, y compris des électeurs religieux, face à l'implication des organisations religieuses et des différentes confessions dans les campagnes électorales.
Alors Charles Voisin, on parlera plus tard de cette lassitude, notamment chez les jeunes, mais revenons sur le poids de la religion dans les campagnes présidentielles. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les églises évangéliques ? Qu'est-ce que c'est ? Quel poids elles ont ?
Oui, alors c'est assez compliqué. L'évangélisme, comment dire, c'est il a pris naissance aux États-Unis quand c'était finalement la conquête de l'Ouest. Les pionniers n'étaient pas très très croyants et puis il y a finalement des espèces de pasteurs itinérants qui sont venus évangéliser toutes ces personnes qui venaient habiter dans les régions qui étaient encore inhabitées vers l'Ouest. Et donc il y a eu plusieurs moments de religiosité très forte aux États-Unis qu'on appelle des revivals. Et alors c'est une religiosité qui est très différente, qui est très axée sur l'émotion. Et aujourd'hui les évangéliques ont un poids considérable sur la politique américaine. Ils sont 80 et 90 millions, mais ils sont pas tous conservateurs. Et c'est là que ça devient un peu complexe, mais je vais pas expliquer. Pour faire simple, la plupart sont quand même très conservateurs. Et c'est la différence par rapport aux protestants mainline ou traditionnels dont on a l'habitude. Et donc, pour George Bush, par exemple, ça a été capital. Et il y a une phrase fameuse dans un débat où on lui demandait, mais finalement, George Bush, quel est votre auteur favori ? Donc, pas du tout une question orientée religion. Il a répondu Jésus. Et ça, c'était clairement un appel pour se mettre dans la poche, on va dire, le vote des chrétiens évangéliques. Et c'était clairement quelque chose de calculé.
Donc on voit clairement que dans les années 90, il y avait vraiment un poids, une importance de la religion dans les débats. En 2000 aussi, et notamment dans les années 2000, mais surtout en 2012, où la religion a aussi été vraiment au cœur des débats pour l'élection présidentielle.
Oui, alors ça n'a pas joué en faveur du Parti républicain en 2012. Ils ont perdu, je pense, 3 sénateurs parce que ils ont totalement dévié sur ces questions-là, sur les questions de la sexualité, de l'avortement, même de la contraception. Ils étaient totalement à côté de la plaque. Ils ont tenu vraiment des propos invraisemblables, vraiment de type fondamentaliste. Et ça a vraiment joué contre eux. Alors, est-ce que c'est pour ça que les questions de religieuses sont beaucoup moins présente cette fois-ci, c'est possible. L'autre explication, c'est que Trump bon, je ne veux pas dire qu'il n'est pas croyant, mais en tout cas, il ne parle pas du tout de religion. Le seul livre qu'il a lu, c'est pas la Bible, c'est son livre à lui, The Art of the Deal, donc l'art de négocier. Voilà, c'est, justement, on lui a posé la question, c'était là aussi un classique, et il aurait dû répondre que mon livre de chevet, c'est la Bible. Il l'a pas fait, non, il a dit mon livre de chevet, c'est mon livre
le mien,
à moi.
Hein, mais donc effectivement on voit que c'est un peu sorti des débats, et en même temps selon Marie Guette, donc je le rappelle, qui est chercheuse à l'université de Toulon au laboratoire Babel, finalement la religion a quand même une place dans cette campagne présidentielle. Elle va nous expliquer notamment que les électeurs catholiques pourraient faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. On écoute.
Il y a moins de discours religieux de la part des candidats. Ce sont des candidats qui apparaissent en apparence, en tout cas, comme étant moins religieux. Pour autant, je faisais un petit aperçu récemment, j'ai quand même l'impression que le religieux garde un rôle très important et peut-être qui est moins visible, mais qui est peut-être tout aussi important, voire plus. Je peux vous donner peut-être un petit exemple par rapport au vote des catholiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, depuis pas mal d'élections, les catholiques blancs, notamment pratiquants, votent républicains. Bon, là, il semble que Trump soit très mal parti sur ce segment de l'électorat américain. C'est-à-dire qu'il est vraiment, vraiment déficitaire par rapport à ses prédécesseurs républicains. Et ça, c'est particulièrement important dans les États clés, les fameux swing states, des États du Midwest, où les catholiques sont nombreux et basculent tantôt du côté démocrate, tantôt du côté républicain. Et donc, on a vu vraiment qu'il y a une baisse de soutien aux républicains de la part des catholiques, et ça pourrait peser sur l'issue de l'élection. Donc, même s'il y a moins de discours religieux, en termes de tendance vraiment déterminante sur le résultat du vote, il me semble que la religion conserve un rôle très important.
Et comment est-ce qu'on peut expliquer que, justement, les catholiques soient moins enclins à voter pour Trump ?
Alors, il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées. La première, peut-être, ça serait le discours qu'il tient sur l'immigration. On se rappelle de ses propos assez outranciers sur le mur qu'il souhaiterait construire avec le Mexique. Et d'ailleurs, sur cette question, il a été interpellé par le pape. En tout cas, le pape, quand on lui avait demandé en février dernier « Que pensez-vous des gens qui souhaitent construire des murs entre les peuples ?» Il a dit que c'était pas chrétien, hein, comme attitude. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de catholiques aux États-Unis qui sont des descendants d'immigrés, qui ont eux-mêmes subi à leur époque beaucoup de discrimination, beaucoup d'hostilité. Donc, quelque part, ils se sentent solidaires quand ils entendent ce genre de discours anti-immigrés, des immigrés qui font l'objet des critiques de Trump. Donc, et l'Église catholique a d'ailleurs un discours aux États-Unis assez favorable à l'immigration. Elle appelle de ses voeux une réforme favorable aux immigrés, notamment aux très nombreux clandestins qui sont présents sur le territoire. Donc ça va complètement à l'encontre du discours de Donald Trump.
Alors, on voit qu'effectivement, aux États-Unis, il y a plus ou moins 20% de catholiques. Si ils se mettent plus à voter démocrate, contrairement à ce qui est apparu dans les sondages lors des dernières élections où ils votaient plus républicains, ça peut faire changer quand même, ça peut changer la donne. Comme les mormons aussi, d'ailleurs, qui sont assez opposés à Trump, tout comme les catholiques.
Voilà, pour les mormons qui habitent majoritairement quand même dans l'état de l'Utah, clairement on sent que cette communauté est déçue ou repoussée par l'idée d'un vote pour Donald Trump. Et pourtant, quand on regarde les sondages, c'est quand même probable que l'État vote républicain parce qu'effectivement, ils sont opposés à l'avortement et d'autres questions comme ça qui sont quand même cruciales pour eux. Donc, ils vont peut-être voter pour Trump, mais vraiment à contre-cœur. Et c'est une carte que Ted Cruz a essayé, donc le candidat, l'adversaire principal de Trump lors des primaires. Il a envoyé, en ciblant vraiment les femmes mormones, en leur montrant finalement des images nues de Melania Trump.
Et, donc la femme de Donald Trump.
Voilà. En leur demandant, mais est-ce que c'est cette femme-là que vous voulez pour comme prochaine First Lady? Parce qu'évidemment, les mormons sont assez pudibonds, ils n'aiment pas non plus les insultes, les injures, les jurons que profère Donald Trump à longueur de discours. Donc, bon, j'ai envie de dire qu'Hillary Clinton pourrait essayer aussi cette stratégie-là, mais je crois quand même que l'Utah va voter républicain.
Donc on voit que effectivement les catholiques pourraient un peu glisser vers les démocrates, les mormons hésitent mais iraient quand même plus vers les républicains. Il reste les évangéliques qui eux sont vraiment encore totalement, on va dire, derrière Trump.
Alors, c'est un peu la division chez les évangéliques. Même, je dirais que les électeurs de Donald Trump sont pas non plus ravis, même s'ils apprécient. Ils disent toujours oui, mais, enfin voilà, c'est pas non plus le grand amour entre les républicains et Donald Trump. Le thème central, c'est l'économie, véritablement. C'est leur espoir qu'avec son savoir-faire, son indépendance, il va faire revenir l'emploi au pays. Alors, Il y a des évangéliques qui prennent la parole pour dire que Donald Trump n'est pas un candidat acceptable, notamment parce que Donald Trump n'arrête pas de mentir. Et quand on lui demande, par exemple, est-ce que vous préférez l'Ancien ou le Nouveau Testament, il dit « ah ben, moitié-moitié ». Ou quand on lui demande de citer son passage favori, « ah, mais c'est quelque chose de trop personnel pour moi ». Ou alors il cite un autre passage qui n'est pas vraiment chrétien. Ah, moi j'aime bien le concept œil pour œil, dent pour dent. Donc voilà.
On voit qu'il a un profil religieux un peu problématique, on va
il
dire.
Il divise. Et alors au sein de la Liberty University, vraiment l'université chrétienne la plus grande aux États-Unis, il y a des gens qui démissionnent en disant « mais moi je ne peux pas accepter le soutien du directeur » parce que le directeur est vraiment un grand soutien de Donald Trump. Et d'ailleurs, ce soutien-là ne justifie pas son appui de manière religieuse. Il dit « Donald Trump, c'est un bon businessman, il va ramener l'emploi aux États-Unis ».
Alors, on va parler dans un instant des différentes thématiques de campagne et des sujets qui n'ont pas non plus été abordés. Je voudrais juste dire un mot sur les colistiers des deux candidats. Alors, on va peut-être de nouveau écouter un petit commentaire de Marie Guette, donc chercheuse à l'Université de Toulon, là-dessus, et on revient juste après.
C'est quand même pas négligeable de voir que Hillary Clinton a choisi un catholique. Un catholique qui puisse effectivement peut-être lui faire gagner quelques voix dans ces fameux états clés que sont, disons, le Michigan, l'Ohio, la Pennsylvanie. Et Trump, pour renforcer en quelque sorte sa crédibilité envers les évangéliques, a choisi un homme qui est un ancien catholique, élevé dans une famille d'origine irlandaise, qui est converti à l'évangélisme protestant et qui est extrêmement pratiquant et qui a été connu en fait en tant que gouverneur de l'Indiana pour des prises de position assez radicales sur des questions comme le mariage homosexuel, etc. Donc, ça, c'est certain que c'est vraiment, ça reflète quand même que la dimension religieuse reste importante. Et puis, chaque candidat, que ce soit Hillary Clinton ou Trump, a donné des gages quand même de sa religiosité. Hein, donc ils sont pris plus ou moins habilement. Trump a été assez maladroit, mais il a cherché l'onction des évangéliques, que tous ne lui ont pas donné d'ailleurs. Hein, mais il a été notamment en visite à la célèbre université Liberty, qui avait été fondée par le créateur de la majorité morale, et il a reçu l'approbation du fils du créateur de cette majorité morale.
Mais donc ça veut dire que ça reste encore une obligation pour les candidats à la présidentielle américaine,
oui,
de montrer, de prouver cette religiosité ?
Absolument. Je crois qu'il est assez peu envisageable encore aujourd'hui pour un candidat d'être ouvertement irreligieux ou irreligieux. Hein. Il y a besoin quand même de donner quelques gages, hein, de sa foi. Hillary Clinton, d'ailleurs, étonnamment, il semble, quand on regarde un peu le passé de ces deux candidats, Hillary Clinton soit vraiment plus sincèrement religieuse que Donald Trump. Elle a été connue pour citer la Bible de manière très pertinente. Elle aurait sur elle en permanence une Bible. Enfin, ça serait vraiment une personne profondément empreinte de religiosité, bien plus que Trump. Alors que traditionnellement, en tout cas, on avait l'impression que c'était plus traditionnellement depuis quelques années, plus les républicains que les démocrates qui étaient les candidats entre guillemets religieux.
Alors, on le voit, hein, elle est assez d'accord avec vous sur le fait que Donald Trump s'est montré assez maladroit pour prouver cette religiosité, pardon, mais que, effectivement, les candidats doivent l'approuver, doivent encore montrer cette religiosité. Et en même temps, on voit dans certains sondages que, par exemple, les jeunes sont moins enclins et moins intéressés par cette question religieuse qui reste quand même centrale dans les campagnes présidentielles américaines.
Hillary Clinton a besoin réellement du vote de ces jeunes, et que pour l'instant son gros problème c'est que ils votent soit pour les partis minoritaires, ou en tout cas ils indiquent qu'ils voteraient pour Gary Johnson, le candidat libertarien, ou Jill Stein, la candidate des Verts, ou alors ils n'iront pas voter parce que déjà ils votent bien moins que les personnes plus âgées, notamment les plus de 50 ans. Et donc ça va être un grand enjeu pour Hillary Clinton de faire voter les jeunes qui ont choisi Bernie Sanders durant la primaire à près de 80%. Et là, ils se retrouvent avec une candidate qui n'est pas la candidate qu'ils avaient en tête. Et donc, vraiment, la clé pour Hillary Clinton, et elle a une grande machine de campagne derrière elle, elle va essayer d'aller les faire voter. Mais donc, comme la religion n'est pas un thème très populaire auprès des jeunes, c'est peut-être pour ça qu'elle l'évite.
Un autre thème, Charles Voisin, qui a aussi été évité pendant cette campagne présidentielle, c'est la question du mariage homosexuel.
Il est vrai que la Cour suprême a rendu sur tout le territoire des États-Unis le mariage des personnes de même sexe légal. Et donc, c'est quand même une grande défaite pour les conservateurs. Or, Trump ne parle pas du sujet. D'ailleurs, Donald Trump est originaire de New York, qui est une cité assez cosmopolite, assez diverse. Et il est très à l'aise avec l'homosexualité. Et donc, c'est... Alors qu'on sent bien quand même que notamment les évangéliques protestants, eux sont limite homophobes, quoi. Et la liberté d'expression aux États-Unis permet ça, ce genre de remarque, de considérer par exemple comme l'homosexualité comme une maladie, c'est des propos qu'on entend encore, même si effectivement c'est pas très populaire et politiquement c'est un peu un souci de tenir des propos pareils. Mais donc cette question du mariage gay n'est pas au cœur de la campagne, et on aurait pu s'y attendre, et c'est le signe quand même que la religion prend une place nettement moins importante cette année-ci.
Alors, peut-être juste un autre thème. Donc, on a parlé du mariage homosexuel, on a parlé un peu de la question de l'avortement. Alors, je voudrais juste redonner une dernière fois la parole à Marie-Guette sur la question du Obamacare, donc le plan santé qui a été lancé par Obama, où on voit que là aussi, en fait, la question religieuse s'était insinuée dans le débat.
Ce plan santé, en fait, qui visait à rendre accessible une couverture santé au grand nombre d'Américains qui n'en bénéficiaient pas, inclut l'obligation pour les employeurs dans les sociétés qui ont plus de 100 salariés, si mes souvenirs sont bons, de fournir donc une couverture santé à leurs salariés, y compris une prise en charge des frais de contraception de leurs employés EES. Hein. Donc ça a suscité une levée de bouclier. Alors les églises, parce que les églises sont des employeurs sont exemptés de cette obligation. En revanche, les hôpitaux, les universités, les écoles, si tant est qu'elles aient un nombre important de salariés, doivent fournir cette couverture santé comprenant pas l'avortement, hein, mais la prise en charge de la contraception. Ça veut dire qu'aux États-Unis, en fait, il y a énormément d'institutions catholiques. Il y a des hôpitaux catholiques, il y a vraiment un réseau d'hôpitaux catholiques très développé, d'universités catholiques. Donc, il y a eu vraiment une levée de bouclier de ces institutions et des évêques pour dire qu'il est hors de question qu'on finance la contraception, c'est contraire à nos principes religieux. Et en cela, ils se sont alliés aux évangéliques. Les évangéliques protestants, eux, ne sont pas forcément opposés à la contraception en tant que telle, mais ils sont opposés à certaines méthodes de contraception qu'ils estiment potentiellement abortifacientes, comme, je dirais, par exemple, la pilule du lendemain. Du coup, ils ont monté toute une campagne pour s'en prendre, attaquer devant les tribunaux l'administration Obama, attaquer cette réforme, cette loi, pour qu'elle soit abrogée. Sur la dimension religieuse de ce plan santé, Trump a repris, l'argumentation comme quoi l'administration Obama portait atteinte à la liberté religieuse, notamment à travers ce plan santé, en disant « Moi, si je suis élu, c'est vous les chrétiens qui tiendrez... la baraque, en quelque sorte, et vous inquiétez pas, on va rétablir la liberté religieuse. » Mais en tant que Trump, hein, comme d'habitude, il a dit « Grâce à moi, on redira Joyeux Noël dans les grands magasins ». Enfin, voilà, il comprend qu'à moitié, vous voyez ce que je veux dire. Il n'est pas ce que souhaitent les organisations religieuses qui veulent l'abrogation du plan santé. C'est pas tant qu'on dit Joyeux Noël dans les grands magasins. Pour eux, c'est des violations plus insidieuses et plus graves. Mais il a repris effectivement cette argumentation comme quoi la liberté religieuse était mise à mal, notamment à cause du plan santé.
Ça montre que Trump est parfois un peu à côté de la plaque et en même temps, il a ses supporters. Alors, je ne vais pas vous demander vraiment un pronostic, mais voilà, quelles sont pour vous les tendances, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans un mois aux États-Unis ?
Oui, d'habitude.
Donc je vous demande quand même un peu un pronostic.
Oui, mais je ne fais pas de pronostic. Je regarde un peu la carte et j'essaie de voir quel état va basculer dans quel camp. Ce qui est sûr, c'est que je pense que Trump pourrait gagner. Il faut s'enlever de la tête que c'est pas possible. C'est possible. Je pense que s'il remporte l'Iowa, l'Ohio, la Floride, le Nevada et le Colorado, il arrive aux 270 grands électeurs. Et donc voilà, c'est toute la bataille et c'est pour ça que le soir des élections, évidemment, il faut regarder tout ça état par état et faire un peu de mathématiques électorales. Mais donc, non, désolé. J'ai pas de pronostic.
Mais effectivement, et vous le disiez, par contre, un des enjeux aussi, ce sera les jeunes, et donc et voir comment Hillary Clinton pourra attirer ces jeunes, justement, parce qu'on parle de religion, mais des jeunes peut-être moins attirés par des questions liées à la religion, mais des questions plus centrales sur la politique, et voir comment Hillary Clinton pourra les attirer pour qu'ils votent pour elle.
C'est sûr, la clé du scrutin, c'est la mobilisation, et pas que les jeunes. Et alors là, pour le coup, je vais peut-être être plus optimiste, si je peux dire. C'est sûr que Hillary Clinton a une campagne très professionnelle, très bien organisée, avec un grand nombre de staff, tandis que Trump a montré quand même qu'il est assez amateur dans la gestion de sa campagne jusqu'à présent. Et la clé, c'est vraiment de... les sondages, c'est très bien de savoir que 90%, par exemple, des Noirs américains vous préfèrent à votre adversaire, mais vraiment ce qu'il faut, c'est qu'ils se rendent aux urnes un mardi de novembre, parfois sous la pluie, donc un jour de semaine. C'est pas évident, et les Américains votent très peu, le taux de participation est très bas, donc c'est vraiment en fait la clé du scrutin, avoir une campagne suffisamment professionnelle que pour pouvoir bien cibler tous ces électeurs et les amener à voter le jour J.
Ok, ben merci beaucoup en tout cas, Charles Voisin. Donc je le rappelle, vous êtes chroniqueur spécialisé dans la politique américaine, conférencier à l'Université de Liège. Vous avez un blog, donc politicus.info, vous parlez de la politique américaine. On a eu Marie Guette, que je remercie, maître de conférence à l'Université de Toulon, laboratoire Babel, et dont les recherches portent sur la place de la religion dans la politique américaine. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine à 20h sur la première pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Belle soirée à tous.
En quête de sens
sur la première.